Et le sujet qui remporte la majorité des suffrages, eh bien, est soumis donc à notre réflexion. Voilà. Donc, du coup, la parole maintenant est à vous. Un micro va circuler. Il vous suffit juste de lever la main pour proposer, par exemple, des sujets ou des thématiques. Donc, oui, il y a une proposition déjà ? C'est bon, hein, c'est suffisamment fort, tout le monde entend, sans que ce ne soit trop, parce que la salle résonne, c'est le problème qu'on a. Hein.
Donc, la dernière fois, on a parlé des tabous, donc du coup, ça m'a fait penser, j'ai pu le voir, sur, je pensais à l'égoïsme chez l'humain, oui. Et c'est-à-dire, c'était finalement une donnée intrinsèque à l'humain, si c'était bienveillant ou un défaut. Donc du coup, moi, je suis interrogé là-dessus, j'ai des réponses, mais je suis pas sûr d'avoir les bonnes.
D'accord. Donc, voilà. Donc que penser de l'égoïsme humain ?
Ouais.
Ça serait ça la question. Oui.
Après, d'accord. Bienveillant, défaut, je sais pas ce que c'est inné chez l'humain ou.
Mm-hmm. Ou pas. Mm. Voilà. D'accord. Donc que penser de l'égoïsme humain ? Mm-hmm. D'autres propositions ? D'autres idées ? D'autres envies ?
Merci, bonsoir. La question que je poserais, alors je ne sais pas si c'est, les termes sont les bons, mais ce serait quel est notre rapport au temps ? Et j'entends cela en compréhension du temps, de la notion de temps, notre perception du temps et la vie avec le temps, dans le temps, etc.
Mm-hmm. Quel rapport avons-nous avec le temps ? D'accord. Oui.
Oui, voilà, faut parler très près. Mm. Moi, je m'interroge. J'ai déjà réfléchi il y a longtemps, et du coup, je ne sais plus très bien ce dont je suis. Je m'interroge, y a-t-il un lien entre la créativité et la souffrance ? Je m'explique. Enfin, non, je ne vais pas le dire comme ça. Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce que ça peut stimuler la créativité ? Beaucoup d'artistes, je pense à des musiciens, parce que c'est un peu parce que les musiciens, souvent, ce sont des gens qui ont un peu souffert. Alors, il n'y a pas que ça qui engendre la créativité, mais je pose la question, quel est le lien, y a-t-il une relation entre la souffrance et la créativité ?
D'accord, ok. Peut-on créer sans souffrance ? Ça serait ça aussi la question ?
Pourquoi pas ?
Voilà. Quel lien entre créativité et souffrance, ou peut-on créer sans souffrance ? D'accord.
Je peux ?
Bien sûr.
Moi, je m'interroge sur la liberté, parce que c'est une fiction, une réalité.
Voilà. D'accord.
Plus ça va, plus c'est la fiction, c'est un domaine. Alors, je me demande si c'est la liberté existe vraiment, ou c'est plutôt une fiction.
D'accord, ok. Bien formulé. Ah, ouais. Liberté, réalité ou fiction ? Oui. D'autres propositions ? Donc, nous en avons... Oui. Oui, bien sûr, Marcel. Oui.
L'identité est-elle un enfermement ?
D'accord. L'identité est-elle un enfermement ? Mm-hmm. Ça nous fait 5 ou 6 propositions.
Cinq.
D'accord. Alors, du coup, Marie-France, est-ce que cela vous dirait de nous les rappeler toutes et ensuite on passe au vote ? Voilà.
Alors, je vous les dis toutes et ensuite on les reprend. Que penser de l'égoïsme ? Quel est notre rapport au temps ? Y a-t-il un lien entre la créativité et la souffrance ? Liberté, réalité ou fiction, et l'identité est-elle un enfermement ? Alors, pour les nouveaux, je rappelle qu'au premier tour, vous levez la main pour tous les sujets que vous seriez content de voir traités. Et ça va peut-être nous permettre de choisir un sujet. S'il y a deux ex aequo, on fera un deuxième tour, et là, il faudra choisir et ne lever la main qu'une seule fois. Voilà. C'est parti pour le vote. Donc, vote d'abord. Que penser de l'égoïsme?
Que penser de l'égoïsme? Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Sujet numéro 2, quel est notre rapport au temps?
Quel est notre rapport au temps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Y a-t-il un lien entre la créativité et la souffrance?
Lien entre créativité et souffrance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
22,
23.
Merci.
Sujet numéro 3,
liberté, réalité ou fiction? Liberté, réalité ou fiction? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Et enfin, l'identité est-elle un enfermement?
L'identité est-elle un enfermement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et 23.
Et 23.
Oui, et 23.
Ah oui.
Deuxième tour.
Deuxième tour.
Alors là, il faut voter qu'une fois. Donc, premier sujet, on le répète.
Alors, le deuxième tour va être entre « Y a-t-il un lien entre la créativité et la souffrance ?» et « L'identité est-elle un enfermement ?»
Ah.
Donc, on ne vote qu'une fois.
Voilà. Donc, y a-t-il un lien entre créativité et souffrance ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
L'identité est-elle un enfermement?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
22.
Bon. Donc c'est serré, mais c'est l'identité qui du coup l'emporte ce soir. Donc Marcel. Voilà, peux-tu peut-être nous exposer un peu ce qui t'interroge dans l'identité?
Je vais essayer. Ça fait un moment que je tourne autour de la question. Je vais essayer de situer les différents plans où, me semble-t-il, la question se pose. D'abord, au niveau personnel, le fait d'être ne nous définit pas, c'est l'identité qui nous définit. Or, c'est plein de contraintes. Et beaucoup de choses ne sont pas choisies. Et une de ces contraintes que je ressens, alors là, c'est au plan administratif, l'État immédiatement s'accapare ma personne par l'identité. Et je suis de cette nationalité et pas d'une autre. Donc, au niveau administratif, bon, c'est ça, il y a le numéro. L'autre plan qui me pose problème de plus en plus, me semble-t-il, actuellement, c'est au niveau virtuel, ce problème d'identité qui apparaît à travers des données qui sont soi-disant les nôtres, mais que nous ne maîtrisons pas. Et enfin, je voudrais ajouter, au niveau social, le fait de d'être membre d'un groupe, c'est la définition d'un « nous ». Et ce « nous », me semble-t-il, implique nécessairement la définition de l'autre, celui qui n'est pas nous. Et notre identité à travers le « nous » provoque nécessairement une réaction, positive ou négative, là je ne porte pas de jugement, vis-à-vis de l'autre. Donc, à travers tous ces éléments, je suis quoi ? Et voilà comment bon, je pose cette question. Et me semble-t-il, on peut, par tous ces éléments qu'on ne maîtrise pas, ressentir un enfermement dans son identité, alors qu'elle est censée nous présenter.
D'accord, oui. Donc, enfermement au sens fort du terme, du coup, hein. Oui, oui, oui. Prison, voilà, emprisonnement. Du coup, est-ce que j'ai la liberté d'être moi, quoi ? Et si j'ai, et si on pose est-ce que j'ai la liberté d'être moi, la question est qui suis-je entre mon être et mon identité ? D'accord, oui. Mm-hmm. Oui, madame ?
Je voudrais juste poser une question pour préciser peut-être que l'identité telle qu'elle est présentée, dans l'explication, c'est une identité pour moi, enfin si je comprends bien, qui serait perçue par les autres, soit par l'administration, soit par les réseaux sociaux, soit par l'image qui est donnée, soit par un ensemble de données sur nous-mêmes, etc. Mais est-ce que là-dedans on inclut à côté de ça, est-ce qu'on se prive pas d'inclure l'identité, l'image qu'on a de soi-même, notre inconscient, qui je suis vraiment, est-ce que je me connais ? Parce que je pense qu'il faut se connaître soi-même pour pouvoir se confronter éventuellement à l'image qu'on est censé donner aux autres ou qu'on pense qu'on va nous renvoyer à travers des données ou des photos ou je ne sais trop quoi. Il faut déjà définir, nous, qui on pense être pour se dire... Ben, c'est pas moi, ou effectivement c'est moi, ou on n'a pas le droit de s'accaparer mon identité. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a toute une partie dans le mot identité où est-ce qu'on se connaît vraiment, quoi, en fait, qui on est pour soi-même, déjà, avant de pouvoir dire si ce qu'on renvoie, c'est fidèle, et si ça nous enferme dans une image, et est-ce que cette image-là, c'est vraiment celle qu'on a de soi-même aussi. Enfin, c'est peut-être un peu confus, mais...
Mm-hmm. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on se représente de soi-même comme étant sa propre identité, quoi. Ouais. Mmh.
Alors, pour l'identité, moi, ça m'a fait penser à deux choses. La première, au point de vue individuel, bah, c'est déjà qu'on a toute une part d'inconscient qu'on ne connaît pas trop, en fait. Et donc... Il y a cette part un peu d'étranger en nous qu'on peut découvrir dans certaines conditions, mais voilà, ça pose déjà une question qui on est pour soi-même, et c'est pas si évident que ça. Et l'autre point, c'est plus côté identité sociale. Alors, c'était une expérience, je me souviens plus le nom, mais en fait, on avait un participant à qui on posait une question assez basique sur des lignes. Voilà, est-ce que cette ligne est égale... à la même taille que quelle autre ligne. C'était évident que, par exemple, c'était la réponse B, mais que dans le groupe... il y avait un groupe de participants qui étaient des acteurs, on va dire, qui choisissaient une réponse qui n'avait absolument rien à voir. Et souvent, le sujet de l'expérience savait que la réponse n'était pas bonne, mais choisissait la même réponse que le groupe qui était fausse, qui savait qu'il était fausse. Et du coup, il faisait le choix de prendre... Enfin, de nier en fait la bonne réponse et donc une partie de son identité pour être cohérent avec le groupe et pour être intégré. Et ça, c'est assez représentatif de renoncer en fait, peut-être de renier un petit peu son identité pour être intégré dans le groupe et de pas être marginalisé. Mmh. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on pourrait peut-être parler d'enfermement, de renoncement en tout cas. Mmh.
Oui, oui, tout à fait. Hein. Ouais.
Alors, moi, je me pose la question de quelle identité parle-t-on ? Est-ce l'identité qui nous permet de nous identifier à une société ou à voilà, une société, ou l'identité qui est une démarche personnelle pour être soi, en fait, voilà. Et évidemment, la question, est-ce que... c'était quoi d'ailleurs la question sur l'identité ?
Notre identité nous enferme-t-elle ?
Est-ce que, oui, justement, si nous allons plus vers une identité pour appartenir à une société, évidemment, je crois qu'on va plus dans le sens de l'enfermement. Et si c'est une identité, une démarche personnelle pour essayer de se retrouver, d'être soi-même, je ne me sens pas dans l'enfermement, plutôt dans la recherche d'un projet, enfin des projets personnels. Mmh. Alors maintenant, il faut savoir de quelle identité parle-t-on. Voilà. Mmh.
Et est-ce qu'on n'a pas plusieurs identités ?
Voilà, justement. Ouais. Justement, justement. Mmh. Oui. Il y a des psychiatries, la schizophrénie, tout ça, qui parlent de plusieurs identités. Je reviens sur l'expérience effectivement, qui peut avoir double sens, parce qu'ils avaient fait l'expérience aussi avec des singes qui étaient arrosés quand ils prenaient la banane. Ils n'allaient pas sur l'escabeau, et le nouveau singe qui rentrait, il ne savait pas, il allait prendre la banane, il se faisait péter la gueule par les autres, parce qu'il savait qu'il était puni, les autres. Donc ça, c'était une identité collective pour préserver, et non pas pour punir l'autre, c'était pour préserver tout le monde. Donc bon, il y a différents aspects de l'admettre ça. Après, moi, je voulais revenir sur, au moment de la naissance, est-ce qu'on est nous-mêmes en tant qu'individu ? C'est le libre arbitre. Le libre arbitre donne toute capacité à avoir son identité personnelle. Il y a des sociétés qui sont tic-tac et qui arrivent à l'extrême pour avoir leur main mise sur le peuple. Ça finit par des décapitations, mais c'est très fort ce que je veux dire, mais la liberté d'esprit et de choix garde son identité. On peut la garder jusqu'au bout. Mmh. Mais il y a pression sociale pour effectivement qu'on nous la pique, hein, c'est tout.
Alors aussi, ce qui serait intéressant, c'est de voir si notre identité, elle nous est donnée à la naissance, ou si en fait, on la construit via notre libre arbitre au cours du temps.
Dans mon sens, donc, l'identité est donnée à la naissance, chacun peut faire ce qu'il veut, libre arbitre. Après, on est manipulé peut-être, pour effectivement aller dans la conscience collective. Les fourmis, ils ont des identités, une par une, mais très individualistes, mais la fourmi ne sait pas forcément, on ne sait pas, mais n'est pas forcément consciente qu'elle a son identité, mais ah bah pour le groupe. Nous sommes des grégaires, souvent c'est le mot que je sors, mais voilà, c'est seulement notre individualité, on l'a. Souvent on dit, lui, il est bizarre, il est atypique, il est singulier, c'est une identité. Mais on est dans le flot de la société pour aller dans le même sens, sinon on ne serait pas des grégaires, on ne serait pas des animaux sociaux.
Il y avait là, et puis Marie-France.
C'est bon.
Il y aura monsieur là. Oui.
Ouais, c'est vrai que cette notion d'identité, elle me fait penser à beaucoup, beaucoup de choses. Je crois que si on demande au poisson de monter à l'arbre, c'est compliqué pour lui. Donc il y a vraiment quelque chose de propre, de naturel qui est là, dans ses forces. Mais si on lui demande de nager, il est extraordinaire en fait. Son identité, elle rayonne. Et du coup, il y a aussi quelque chose qui m'est tout de suite venu, c'est que souvent dans ma vie, j'ai senti que ça explosait mon identité. Je pouvais plus être exactement le même, en fait. Des fois, il y avait des façons de fonctionner qui me correspondaient, et puis je sentais que c'était plus à jour. Et cette sensation que ça explose, ça sonne plus vrai, en fait, en bouche ou dans ma façon de bouger ou de me vêtir. Et du coup, il y a une notion, j'ai l'impression que c'est toujours quelque chose qui se renouvelle, qui s'ouvre, enfin, comme si on enlevait une bâche et on découvre quelque chose de nouveau, les paupières russes en fait. Il y a toujours d'aller vers le plus fin, le plus sensible.
Et c'est ce qui pose un peu problème dans le terme identité, hein, parce que si on le prend à la base, l'identité c'est mathématique, A est égal à A, donc justement il n'y a pas de variabilité. Et en fait, dans l'identité humaine, on se rend compte qu'il y a presque des métamorphoses du moi, quoi. Il y a un changement, il y a une fluctuation, une espèce de variabilité du moi qui pose question, du coup. Hein, effectivement, quand est-ce que je suis véritablement moi ? Y a-t-il une authenticité du moi ? Est-ce que cette authenticité évolue au cours du temps ? Du coup, voilà. Est-ce que ça fluctue ? Est-ce qu'il y a une adaptabilité ? Est-ce qu'il y a un moi qui répondrait aux différents âges de la vie aussi ? Peut-être, enfin, voilà.
Et puis on a parlé de pression sociale, et évidemment, c'est savoir s'en extraire et tracer sa route, quoi.
Ah ouais.
Pas sauvé. Donc, ce que je retiens, monsieur, avec le bleu rouge qui vous regardez, vous avez parlé de singularité, c'est ça ? C'est le mot que je voulais employer, en fait. On est tous des êtres singuliers, j'en suis intimement persuadé. En revanche, on existe aussi dans notre rapport aux autres. Et notre l'altérité, notre rapport aux autres, au groupe, à la société, etc., évidemment, nous influence. On peut enlever le peut-être. C'est évident qu'on est influencé, plus ou moins. Donc il y a une sorte d'antagonisme permanent, c'est ce que je ressens, entre notre singularité, qu'on aimerait bien mettre assez souvent en avant, et puis quelquefois, on se replie. C'est mon ressenti. Hein. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a été dit d'autre aussi ? Donc ça c'est vraiment un antagonisme entre les deux, perpétuel. Quant à savoir si notre personnalité évolue, oui, évidemment. Je ne sais plus qui a parlé du processus d'individuation. C'est plus lequel. Et en fait, à un moment donné, chacun est très différent. À un moment donné dans sa vie, on se pose tellement de questions, on se dit bien. On tente plus ou moins d'y arriver, de créer sa propre personnalité, un peu moins influencée par toute l'éducation qu'on a plus ou moins depuis qu'on existe. Voilà. Mm-hmm. Donc, mais ce que je retiens, c'est l'antagonisme permanent. Enfin, moi, je ressens ça, hein. Mm-hmm. Entre notre singularité, on en a tous une. Ce qui a été appelé la pression sociale, l'influence des groupes, et que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans la vraie vie en contact physique, parce qu'elle existe aussi, ce soir par exemple,
ouais.
On existe dans notre rapport à autrui. Donc, comment identifier ? Il y a les deux.
Il y a les deux.
Un combat permanent, enfin, combat, c'est un peu fort, mais c'est un antagonisme. Voilà ce que je veux dire.
Tout à fait, oui. Alors, dans le processus d'individuation, il y a beaucoup d'auteurs hein, qu'on pourrait citer. Hein, Freud, entre autres. Je pense aujourd'hui à Charles Taylor, par exemple, qui travaille beaucoup sur cette thématique. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que justement, pour qu'il y ait processus d'individuation et presque constitution de l'identité, c'est qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se fasse et qui pose la question de mon rapport entre moi et autrui. Est-ce que je peux être moi indépendamment des autres, ou est-ce que je ne suis moi que dans ma relation à autrui? Mais dans ce cas-là, est-ce que je ne me perds pas justement dans ce que me transmet autrui? Ou est-ce que l'être que je suis n'est qu'une construction en fait qui se pense au pluriel? Enfin, du coup, c'est des questions qui interrogent. Hein. Et qui peuvent nous permettre de distinguer, par exemple, ou de différencier l'identité, la singularité, l'individuation, la personnalité. Est-ce que tout ça, ça renvoie effectivement à la même chose en nous ? Ouais.
Mmh. Oui. Oui, moi je pensais à un thème qui est d'actualité, qui intervient beaucoup depuis quelques années, qui est le thème du genre. Mmh. Ou à la naissance, on est effectivement un ou deux en France sur le numérique social. Mmh. Et il y a beaucoup de gens, je ne sais pas, mais de plus en plus, en tout cas, qui se sentent enfermés. Donc, c'est vraiment, là, pour moi, une application réelle de ce problème de se sentir enfermé par rapport à son identité. Et on pourrait dire la même chose sur la nationalité. Puis aussi, après, je crois que vous avez évoqué le fait que notre identité, elle est multiple. Mmh. Voilà, donc moi je suis français, je suis blanc, je suis athée, je suis sportif. Et par exemple, un Américain qui va être, je sais pas, croyant noir peut avoir donc une identité différente. Mais si les deux sont par exemple champions de tennis, ils auront aussi une identité commune, avec finalement peut-être plus de points communs que par rapport à leur identité originelle. Donc c'est vrai que c'est difficile de s'arrêter à deux ou trois ou même quatre critères. Il y a tellement de critères qui vont définir notre identité.
Mmh. La pluralité, un des facettes.
Mmh. Je vais revenir sur la question initiale, sur cette notion de identité et enfermement. Mmh. En fait, le mot identité, ça ramène au mot d'identification, qui est en fait un élément nécessaire dans une société de la classification, parce qu'en effet, on est dans une société cartésienne, Donc c'est Descartes qui a défini sur l'ensemble des choses, des problèmes et des sujets, il faut les définir. Donc à partir du moment où on définit, on a défini des identifiants. C'est vrai aussi dans Confucius. Chez Confucius, donc en fait, on est dans un monde qui a besoin d'identifier tout ce qui est caractérisé. Donc l'identité est un nécessaire, est une nécessité dans un monde complexe où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses, et on a toujours besoin d'avoir l'identifiant pour se repérer et pour pouvoir parler et échanger. Donc ça, c'est quelque chose. Après, la question de l'enfermement, c'est de ce fait-là, à partir du moment où on a l'identifiant et donc une identité, donc plurielle peut-être, comme les définis administratifs et autres, est-ce qu'on est dans le syndrome de Stockholm, qu'on est en fait, on devient esclave de l'identité qui nous définit, en tout cas vers l'extérieur. Ça, c'est une des questions sur l'enfermement. Donc, mais par ailleurs, on a plusieurs identités, pardon, et on peut jouer avec plusieurs identités, et jouer aussi avec des identités cachées, comme un acteur, en fait. Il y a l'identité officielle, il y a d'autres identités qu'on connaît, et puis il y a l'identité que l'on n'avoue pas, dans laquelle on peut se réfugier, ça rassure, en fait, certaines identités, afficher ou pas. Et en fait, on pourrait basculer sur différents enfermements sans jamais être enfermé. Mais en fait, on bascule d'enfermement en enfermement de classification. Ce n'est pas des enfermements de soi-même, c'est des enfermements d'identité, mais identité et soi, c'est deux choses absolument différentes. Je pense qu'il y a cette notion un petit peu de confusion entre le soi et l'identité. L'identité, ce n'est pas synonyme de soi. L'identité, c'est des éléments identifiants qui sont sans arrêt donnés et parfois nécessaires. Mais le soi n'est pas du tout synonyme d'identité. Le mot enfermement, c'est l'enfermement d'identité qui régénérait sur le soi, peut-être, parce que ça peut rassurer, parce que ça peut être obligé, mais peut-être pas, parce qu'on peut jouer avec plusieurs identités.
L'identité comme marqueur social, hein, très clairement, hein, ici, hein, en termes de classification. Hein. Ouais. Oui. Oui.
Oui, je vais aller dans le même sens que ce qui vient d'être dit. Je ressens une forme d'interaction en fait, entre ce qu'on peut se développer soi-même en termes d'identité et ce qu'on reçoit hein, de la communauté, de la vie sociale, l'interaction qui fait que l'un alimente l'autre. Et je pense que c'est lié à on a eu un exemple tout à l'heure sur le genre, hein, ou le changement de genre, où là, on est clairement, pas dans tous les cas, mais souvent dans des cas où les gens ne supportent plus l'identité que le monde social donne, et on a envie de changer. C'est pas à chaque fois comme ça que ça se passe, mais ça se passe parfois comme cela. Ça me semble lié aussi au monde sensible, c'est-à-dire à tout ce que, finalement, nos sens nous donnent ou nous révèlent. Si on faisait une expérience de pensée de quelqu'un qui n'aurait aucun de ses sens, on peut tout faire dans les expériences de pensée. Je me demande d'où on partirait, vous imaginez, hein, on ne voit pas, on n'entend rien, etc. Je ne sais pas quelle est l'identité qu'on aurait dans sa seule pensée. Ça me semble important. Ce qui me semble important aussi, c'est dans le monde social, finalement, le regard des autres hein, qui influe énormément. On le voit, on n'en a pas parlé parce que pour nous, l'identité, c'est évidemment l'être humain au premier plan, mais on a des exemples sur finalement des objets hein, où on peut être fétichiste, regarder le fauteuil de Louis XVI, le stylo plume du général de Gaulle ou le mégot de Johnny Hallyday. Et c'est vrai que ce sont des objets qu'on peut retrouver par dizaines ou par centaines ou par milliers par ailleurs. Mais on va donner une identité particulière au stylo plume du général de Gaulle parce que il l'a tenu. En fait, on n'en sait rien, hein, mais il est posé sur le bureau. Il peut y avoir des milliers qui ressemblent. Et on va, finalement, c'est le monde social, la communauté, les autres, hein, qui vont donner une image relative à un objet. Donc ça va même jusqu'à l'objet.
Je trouve que c'est assez passionnant parce que du coup on s'aperçoit de quoi, c'est que dans l'identité, si on la lie à la chose, la table, elle est ce qu'elle est. A est égal à A. La table est la table. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait faire que j'ai une identité ? Ben, effectivement, le fait que le regard d'autrui, que ce soit l'administration, l'État ou même mon meilleur ami, en fait, lorsqu'il me côtoie, il me chosifie. Il me pose dans une espèce de stabilité qui fait que je suis celui que je suis à ses yeux, aux yeux de l'État, et du coup, peut-être, avec l'expérience qu'on a vue, à mes propres yeux. Et du coup, effectivement, là, il y a quelque chose où tout d'un coup, il y a une gangue qui me tombe dessus et qui fait que je suis marquée pour être celui ou celle que je dois être, du coup, aux yeux des autres. Et est-ce que je peux dévier ? C'est ça la question, du coup. Est-ce que je peux dévier de ce qu'on me fait être ? Est-ce que je peux dévier du fait d'être une femme ? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme, du coup ? Et la société va m'imposer des directives. Donc, être soi, est-ce que c'est pas du coup demander à ne pas être assigné à un genre, par exemple, en termes de marqueur social ?
L'enfer, c'est les autres.
L'enfer, c'est les autres. Voilà. L'enfer, c'est les autres. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant chez Sartre, il me semble, dans l'enfer chez les autres, c'est que paradoxalement, il me semble qu'il y a un renversement. C'est-à-dire. Pourquoi l'autre est un enfer ? Peut-être parce que j'aimerais donner de moi une image et une identité. J'aimerais paraître une femme extraordinaire, généreuse, bonne, etc. Et paradoxalement, le regard de l'autre est peut-être celui qui vient voir celle que je suis réellement et qui ne me permet plus de tenir le paraître que je voudrais donner. Et donc là, du coup, oui. Là, ça devient l'enfer, quoi. Voilà. Ne plus pouvoir me cacher derrière mon identité. Ça serait intéressant, ça aussi. Du coup, l'identité, peut-être, là, comme ce qui sauve, ce qui serait salvateur. Voilà. Et qui ne tient pas. Et qui ne tient pas. Voilà.
Bonsoir. Ça marche ?
Oui.
Ah. Alors, si on s'en réfère, en fait, à la carte d'identité.
Oui.
Je suis quand même enfermée dans un nom,
ouais.
Avec trois prénoms, donc dans une famille.
Mm.
Après, je suis quand même enfermée dans un pays, il y a quand même des frontières, où je vais pouvoir passer ou pas. Je suis enfermée dans une époque, j'ai une date de naissance, j'ai un âge, vous l'avez déjà dit. Bon, après, il y a plein de chiffres que je ne comprends pas. La photo, je vais finir par la photo. J'ai oublié de dire, je suis de plus en moins enfermée dans ça, mais dans un sexe,
ouais.
Un Kiev.
Ouais.
Qu'est-ce qui est marqué là ? Bref, pour finir, il y a une photo. Mais
date de délivrance. Non, l'identité n'est valide qu'un certain temps. Hein.
Voilà.
Ouais.
Je suis valide jusqu'à un certain temps. Est valable aussi.
Bon. Après,
je peux être périmée. Et puis, d'une manière générale, au niveau sociétal, je trouve qu'on est du coup de plus en plus libérés parce que on peut changer de nom, on peut changer de sexe. Au niveau de la photo, la chirurgie esthétique fait des choses phénoménales.
Ouais.
On voit les jeunes filles, hein, mais c'est affolant. Hein. Moi, j'ai vu un reportage là-dessus. Elles se changent le nez, machin, nanana. Est-ce que c'est une liberté ? Parce qu'au fond, elles se ressemblent toutes, parce qu'elles ont toutes le même modèle.
Oui.
Et puis pour revenir au monsieur qui disait que les acteurs ou comédiens, moi je pense qu'ils jouent plus des rôles différents, mais au fond, ils gardent leur identité. En fait.
Moi, je reviens souvent, je reviens aux bases de la nature. À chaque fois, ce qu'elle a créé, pourquoi on est là, on est des humains. Vous me passez tout à l'heure à identité A égale A. C'est pas une identité, c'est une égalité. C'est pas tout à fait pareil. Ça me fait penser à la mécanique quantique. Maintenant, on connaît l'intrication. Il y a une particule. Et c'est exactement au même moment, l'équivalent dans l'univers. Elle bouge au même moment.
Ouais.
Où est l'identité de la particule par rapport à l'autre ? Il y a une singularité. C'est ce qu'on appelle la singularité. Et après, je pensais effectivement, chez l'humain, les gémellités ou les triplés. Ou du clonage, parce qu'on fait du clonage. Alors, chez l'humain, on ne l'a pas fait, c'est éthique, mais chez les animaux, on le fait. On va donner une note ou une lettre pour identifier, mais l'identité génétique, elle est là. Et par contre, à la naissance, libre arbitre, chacun va avoir son vécu, va s'écrire son identité par son vécu. Et ça fait penser à un film qui me sert de référence souvent. Le point commun qu'on a dans notre vie, le seul point commun qu'on a tous dans notre vie, c'est nous-mêmes. Mm. Voilà. Et c'est un film qui est ancien, d'anticipation, c'est Total Recall. Quand ils font l'appel à la pub, venez changer de vous. Mm. Donc on peut être une femme, venir un mec vachement balèze, on change de nous en tout. Voilà. Et là, on change d'identité. Donc c'est factice, hein, parce qu'il n'y a pas d'opération et tout ça. Mais on est à peut-être à un moment donné. J'ai une phrase qui m'est ressortie, c'est la loi du karma est une chose immuable, sauf par choix. On a le choix de changer d'identité si on a envie, et d'être singulier, ou on a le choix, effectivement, de pouvoir garder une identité telle que nous l'a donnée, parce qu'on est, on est bien dans cette identité-là. Mm. Donc c'est pas, c'est, ça revient à ce que je veux dire, c'est le libre-arbitre, il existe quand même. Mm.
Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi j'ai envie de changer d'identité. Et est-ce que le changement d'identité, je pense à la logique de transgenre par exemple, c'est est-ce que changer d'identité ou demander en tout cas d'avoir le droit de changer d'identité ne serait pas justement pour être véritablement en accord avec soi? Et donc là, si on pouvait faire une distinction entre l'identité et le soi, qui est quelque chose de plus fondamental en fait que l'identité sociale qui m'est donnée ou quelque chose comme ça. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une connaissance de soi qui serait plus, j'ai envie de dire, intime, qui s'inscrirait véritablement dans l'intime d'un individu, qui ferait que celui-ci voudrait véritablement correspondre à ce qu'il se sent être au plus profond de lui, mais qu'il ne paraît pas être, en tout cas à ses propres yeux ou aux yeux des autres. Ouais. Ouais. Oui. D'accord. Oui.
Tu m'entends?
Oui.
Je trouve que là où l'identité elle se révèle instantanément, c'est notamment dans l'expression corporelle. Moi, je pratique une pédagogie qui s'appelle la pédagogie d'Al Croze, et c'est en fait l'apprentissage de la musique par le corps, par en étant vraiment en mouvement et à l'écoute du groupe et de son propre univers. Et en fait, des fois, quand on colle à un rythme, à une rythmique bien spécifique, on voit en fait combien chacun peut être, ça peut être difficile ou plus simple. Même quelqu'un qui est très bon musicien, qui est très bon pianiste, par exemple, peut avoir du mal à répéter ce rythme avec son corps. Ou à se libérer sur un mouvement de façon très créative, en fait. Et on voit combien chacun a ses points forts, ses points faibles dans son expression. Comment l'identité, au fur et à mesure des années, a créé, en fait, un corps, a façonné un corps qui bouge d'une certaine manière, en fait. Et comment, là, on peut justement le dénouer, lui permettre de s'ouvrir pour aller expérimenter d'autres rythmes. Mmh. Et dans la danse vraiment, dans la subtilité de la connexion, en fait, là aussi, c'est comment on arrive à former une identité avec quelqu'un, avec sa partenaire, et comment on arrive à garder aussi son propre style, sans se perdre. Mm-hmm. Là aussi, la question d'identité. Mm-hmm. Dans quelque chose de fin et de plus corporel.
Voilà. Ouais. Comment être soi avec autrui, quoi. Il y a aussi l'idée de la limite, de la frontière, de... Voilà, hein, où trouver la marque qui permet à chacun d'être soi tout en étant avec l'autre.
Et mon identité, c'est de garder le micro, du coup, je le...
Oui. Oui.
Oui, je voulais revenir sur deux choses. Donc, parce qu'il y a un débat sur identité et égalité. Mm-hmm. Dire que dans l'identité, il y a le mot aussi identique. Souvent, il y a le mot identité, c'est pour trouver d'autres identités. D'ailleurs, en mathématiques, il y a des identités remarquables et d'autres identités. Et le mot identité ramène à l'égalité parce qu'on essaye de rapprocher des identités. Donc, c'est souvent pour ça qu'il y a le rapprochement identité-égalité. Je pense que vous faisiez tout à l'heure. C'est le premier élément. Mmh. Deuxième élément, c'était... on a cité Sartre pour dire... notre identité, enfin l'enfer c'est les autres, le regard des autres, donc ça c'est dans Huis Clos. Mm. Mais si je ne me trompe pas, dans L'être de néant, il y a une autre expérience que l'expérience du trou de la serrure,
oui,
où
la
on
honte.
Regarde à travers la honte, regarde à travers le trou de la serrure, et tout d'un coup, il y a un regard vers le trou de la serrure. On n'est pas vu, mais on a honte. Et on est défini, et on a peur, et on est défini parce qu'on croit qu'on est vu, alors qu'on n'est pas du tout vu. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il ne se contredit pas, mais il donne deux notions. C'est que oui, on dit l'enfer, c'est les autres, parce que c'est plus facile. C'est en plus une belle réplique de huis clos, alors que l'être néant, c'est un pavé. Et en fait, on se dit, oui, c'est les autres qui définissent notre propre identité, c'est l'enfer. Mais en fait, Sartre dit aussi qu'en fait, c'est le regard qu'on pense que les autres ont sur nous qui font qu'on a une identité. On se croit cette identité-là parce qu'on pense à la place de l'autre. Et en fait, l'enfermement des fois de l'identité, c'est que dans la tête, on se donne identité parce qu'on croit que c'est l'identité qu'on nous donne. On prend une carte de... Excusez-moi, je reprends la carte d'identité, c'est un document administratif qui oblige à prendre ce document administratif comme base du mot identité. C'est simplement une notion définie par l'administration qui a pris dans le vocabulaire le mot identité, mais à aucun moment l'administration a défini. On n'est pas dans une dictature. Alors ça, en Chine, peut-être la question se pose aujourd'hui par rapport à cette notion d'identité et l'élément social et les points sociaux qui sont associés à ça. Mais en l'occurrence, ce n'est qu'un document administratif. Donc, c'est pas parce qu'on prend le mot identité que ça définit notre identité. Et souvent, on a justement cette notion, dès qu'il y a le regard des autres, on se le projette à soi-même et l'enfermement serait peut-être celui-là.
Et on se donne à soi-même son propre enfermement. Ouais. C'est bon, ça marche ? Ouais. Vert. Il faut que ce soit vert.
Je me sens censurée. Alors, du coup, je voulais dire que à la question qui suis-je ou qui êtes-vous, c'est quand même très difficile de répondre. Souvent, on va donner notre nom, on va peut-être donner notre métier ou des choses comme ça. Et par rapport à ce que monsieur disait sur l'identification et le fait, d'une certaine manière, de coller des étiquettes ou de se positionner dans une définition, dans une case, des choses comme ça, je pense qu'à titre personnel, c'est aussi c'est utile pour nous aussi, pour nous définir nous-mêmes, que de nous coller des étiquettes. Et on voit que y a un ordre qui est créé de fait de se dire que, on a telle orientation politique ou telle orientation sexuelle ou des choses comme ça. Ou même, par exemple, dans une relation avec un ami et puis finalement on tombe amoureux et puis... Quand on est entre ces deux cases, il y a un espace de flou. Donc, parfois, justement, cette ambiguïté, elle est inconfortable. Donc, c'est bien de cerner les choses et de coller une étiquette. Et ça me faisait penser aussi que il y a pas mal de nouvelles étiquettes aujourd'hui qui sont créées pour permettre, justement, de lever ce flou ou cette ambiguïté, comme, par exemple, les troubles 10 ou des choses comme ça... qui, visiblement, cette espèce de flou, même de ma propre identité, est inconfortable. Donc, on a envie de se mettre dans une catégorie parce que ça nous rassurerait. Et donc, est-ce que aussi on ne s'enferme pas un peu nous-mêmes par rapport à ça ? Enfin, voilà, c'est... Ouais, y a un inconfort d'être dans le flou et en même temps, on est enfermé quand on est dans une catégorie. Donc... Il y a du conflit.
Il y a du flou. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il y a du flou, on n'arrive pas à coller l'étiquette. Ça veut dire qu'on ne dit pas. On ne peut pas désigner, pointer du doigt. Donc, classer de façon très, très normative. Mais est-ce que ce n'est pas à ce moment-là où, justement, ça nous amène à penser à qui nous sommes ? Parce qu'effectivement, quand je suis dans une cage, je me définis, je n'ai pas à me penser moi-même. Je n'ai pas à me chercher dans l'être que je suis. Donc du coup, c'est sûr que ce flou, dans la posture du corporel, par exemple, par rapport à la danse, moi je me dis, il faut quand même aussi avoir du courage pour tenter de sortir de la posture que l'on peut avoir de ses habitudes corporelles comme de ses habitudes intellectuelles, modes de pensée, affectives, etc. C'est-à-dire, effectivement, affronter le flou de l'identité, sortir de l'enfermement, ça demande peut-être un drôle de courage, quoi. Ouais. Et déjà, le premier, qui est celui de tenter de travailler à se connaître soi, quoi. Reconnaître qu'il y a peut-être quelque chose qui interroge, là.
Oui.
Oui, c'est bon. Alors, moi, je reprends ce, je sais pas, monsieur, l'interaction entre les identités, à chaque fois, par rapport à la société, par rapport à soi. Là, par exemple, je vois le poids de la fonction, par exemple, dans l'identité. Bon, déjà, le plus basique, c'est la carte d'identité. Là, c'est l'enfermement total. Donc, identité, enfermement, quand on voit la carte d'identité, évidemment, là, c'est, là on est dans l'enfermement. Et par contre, quand, identité, fonction, mettons quelqu'un qui est avocat, par exemple, maître, voilà. Déjà, on est enfermé dans le maître, on se sent maître, donc on aura un comportement qui dépendra de cette fonction qu'on nous a attribuée, docteur, pour prêtre, tout ça. Déjà, bon, on sait très bien que c'est le genre d'identité qui enferme et qui pousse deux fois, bon, je prends les cas extrêmes, la schizophrénie, hein, donc... on voit bien des gens qui ont une certaine notoriété et qui finalement dans une double vie essaient de faire autrement pour essayer de rester soi. Et je parlais aussi de l'identité de l'artiste. L'artiste qui même s'il ressemble à personne, on voit bien plein d'artistes qui font ce qu'ils veulent, qui ont d'ailleurs j'admire énormément parce que eux au moins ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Tout ce qu'on permet, par exemple, à certains artistes, on ne le permet pas aux communs mortels. Hein. Donc, on voit bien Gainsbourg avait le droit de faire plein de choses. Et pourtant, quelqu'un qui n'est pas Gainsbourg, dans la même situation, ne serait pas considéré comme quelqu'un de normal. Tout ça. Donc, identité enfermement, quand on cherche à s'identifier à une société, quand on vous donne une étiquette, et puis identité, pour rester soi-même, comme un artiste qui cherche à se construire avec le temps, pour finir à imposer un univers qui lui appartient et qui finalement tout le monde accepte. Donc on peut être enfermé dans l'identité comme on peut ne pas l'être quand on le construit. Voilà.
Oui.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, moi je pense qu'il n'y a pas une identité, mais des identités. Ça a peut-être été dit autrement tout à l'heure. Nous sommes différents et à chaque fois nous sommes nous. Si on se place dans un groupe donné, on va avoir une attitude que nous n'aurons pas dans un autre groupe. Donc, professionnellement parlant, on est différent. Mais pardon. Professionnellement parlant, on n'aura pas du tout la même attitude ni la même identité que sur un plan familial ou amical. Donc je ne pense pas qu'il y ait une identité, je pense qu'il y a des identités. Et qu'à chaque fois nous sommes nous. Différemment, mais nous sommes nous. D'autre part, je me disais la chose suivante, si on se disait qu'on pouvait changer d'identité pour ne plus être enfermé, on serait de nouveau enfermé dans une autre identité.
Oui. Oui.
Moi, je voulais poser la question de savoir... Vous m'entendez là ?
Oui, oui, on vous entend, madame.
Enfin, pour moi, il y a une définition de qu'est-ce qu'on entend par identité. Parce qu'une carte d'identité, c'est une chose, comme a dit monsieur, je crois, un document administratif, pour le dire, les numéros qui suivent sont la ville où vous êtes né, le département et la page sur laquelle vous êtes inscrit.
Répertorié.
C'est très basique. Et, mais moi, c'est ça. Là, j'avoue que j'entends parler beaucoup d'identité, mais pour moi, ce sont des phénomènes personnels. L'identité, pour moi, c'est l'humain. C'est pas ça. Après, il y a d'autres identités, mais l'humain, c'est une identité. Après, à l'intérieur, vous en faites ce que vous en voulez. Voilà. Mmh. Ouais.
Oui.
on a beaucoup d'enfermement dans les identités, mais je parle aussi de l'enfermement physique, que ce soit les esclaves, que ce soit les femmes afghanes qui n'ont dans les goulags, quand ils n'ont plus aucune identité. Est-ce que c'est pas la folie qui vient à ce moment-là quand on n'en a plus aucune?
Alors il y a la folie et puis il y a aussi l'absence de liberté. Je pense par exemple à quelqu'un comme Hannah Arendt qui l'a vécu ça dans le statut des apatrides, c'est-à-dire quitter son pays, ne pas être reconnu par un autre pays et du coup au niveau de la carte d'identité il n'y en a plus, hein, les sans-papiers. Donc voilà. Et effectivement ça pose le problème de l'existence, c'est-à-dire je suis humain et pourtant lorsque j'en fais l'expérience, je n'ai d'existence réelle qu'à partir du moment où j'ai une identité, et notamment une identité nationale. Voilà. Donc mes droits humains, par exemple, ne valent que qu'accolés à des droits nationaux, à une identité nationale.
Les droits humains
n'ont rien à voir avec la nation. C'est tout le problème. Ça a été toute la lutte d'Hannah Arendt pour ça, ouais. Ouais. Oui. Oui.
Alors moi, j'ai fait une expérience en live. Voilà. Mmh. J'ai mis mon identité et là, je voilà. Et quand je fais ça dans la rue, avec des enfants ou un feu rouge, j'ai des enfants à côté qui sont mornes à l'arrière. Je fais une clown, il faut ah, papa, maman, un clown. Hop, je fais ça. Les parents n'ont pas vu que j'étais un clown. C'est une identité personnelle, je me suis créé. Mmh. Et comme il y a des années que j'ai dessiné sur moi constamment, bah, effectivement, j'ai l'identité du clown. Soprano l'a chanté, hein, ouais. Clown, et voilà. Et là, je peux changer d'identité. Mmh. Et d'ailleurs, je change de personnage quand je mets un nez de clown. Voilà. Mmh. Et tout est là. Et la carte d'identité ne me donne pas mon identité. C'est ça qui donne l'identité. Quoi. Mmh. Voilà. Mais je peux switcher, lire un café philo et essayer de parler, même si je ne suis pas philosophe, ça ne m'empêche pas.
Oui. Oui, oui.
Je vais rebondir là sur justement cette expérience. J'ai été enfermé pendant 2 ans suite à une condamnation il y a une dizaine d'années, donc libéré 12 mois avant la fin. Donc j'ai changé d'identité. Et après, j'ai purgé ma peine. Normalement, je redeviens mon identité. D'ailleurs, le regard que vous pouvez avoir sur moi vient de changer. Le fait de l'avoir dit, le clown. Sauf que, est-ce que je suis enfermé par ce passage-là?
Non.
Donc, une fois qu'on est passé vis-à-vis de mes proches ou des gens qui me connaissent, ou le juge des peines qui me suivait, quand on est libéré tôt, on est quand même suivi, alors qu'on est libéré moins. Bon, bref. Donc, est-ce que ce passage-là change mon identité? Est-ce que je peux revenir à l'identité au regard que les gens, même qui me définissent, j'ai un casier judiciaire,
non,
de fait, il y a un changement? Or, j'ai purgé ma peine, donc normalement, je suis blanchi. Normalement, personne ne va le savoir, mais mon identité a changé. Donc, je suis enfermé par des passages d'identité dans la vie. Alors, le clown, là, il disparaît. En fait, c'est un peu différent. Mais globalement, ce changement d'identité, on accumule des éléments d'expérience, des éléments administratifs qui fait que l'identité, elle est une addition d'identité qui font modifier l'identité. Mais en tout cas, on peut... Il y a un proverbe arabe qui dit... on est maître des paroles qu'on n'a pas prononcées, on est esclave de celles qu'on a laissées échapper. Mmh. Et donc, en généralisation de ça, on est esclave de toutes les identités, de tous les regards qu'il y a eu et tout ce qu'on a fait. Le fait d'avoir fait quelque chose, d'avoir été condamné, même libéré et vierge, théoriquement, on n'est pas vierge.
Et c'est là où on voit le poids du regard, soit des autres, soit le poids de la société qui nous contraint ou qui nous impose l'être que nous ne voulons des fois pas être. Voilà. Ouais. Et là, la question est, est-ce qu'on peut s'en libérer? Est-ce qu'on peut s'en libérer? Voilà. Oui.
Ouais, je remercie monsieur pour son exemple. C'est vrai que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Sartre et l'enfer, c'est les autres. Là, c'est une espèce d'image qu'on colle à l'identité, qu'on renvoie. Donc, il y a l'image de l'autre qui renvoie et qui peut avoir une influence, comme monsieur disait, sur soi-même aussi, parce que
et on ne peut pas se défaire de l'image de l'autre. Oui.
Lui-même, oui. Je pense qu'on peut faire le lien, mais vous l'avez un peu abordé aussi, avec finalement l'identité, la reconnaissance.
Hein, oui.
C'est-à-dire identité, reconnaissance, j'existe. Mm-hmm. Hein, un peu à la mode de Hegel, quoi.
Oui. En fait.
Et finalement, c'est aussi une façon de, d'habiter hein, une identité. Et si on prend l'exemple du monde professionnel, on en a parlé un peu tout à l'heure. Prenons deux exemples un peu extrêmes. Il y a des études qui ont été faites il y a quelques années aux États-Unis dans le monde RH où des entretiens étaient filmés alors dans des boulots très, très ciblés, c'est-à-dire des livreurs de pizza ou des, comment on appelle, des équipiers hein, dans les fast-foods. Mmh. Et c'est vrai que c'est, les entretiens, évidemment, ont tout été fait pour retenir l'aspect négatif, mais les entretiens étaient faits pour... finalement, effacer l'identité des candidats pour qu'ils deviennent équipiers avec la casquette, la tenue, etc. Et c'était important qu'ils ne soient que cela, et peut-être même à aller jusqu'à oublier pendant qu'ils travaillaient, évidemment, comment ils s'appelaient, etc. C'est, donc, on va encore plus loin que l'identité. L'autre exemple, c'est l'exemple qui va de l'autre côté, qu'on voit un peu plus maintenant dans des boîtes, et j'en ai vu, dans des start-up où il y a... des moyennes d'âge très, 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 très jeunes, où là, il y a un certain nombre d'entreprises ou de patrons qui font en sorte d'aller chercher l'identité de chacun des salariés pour qu'ils soient le plus à l'aise possible et qu'ils puissent développer le plus de créativité et dans un collectif, quoi. Donc là, on est un peu dans deux exemples extrêmes. Oui. Il y en a un, c'est la casquette, et il n'y a que ça qui compte, ce qui a marqué sur la casquette, et l'autre, c'est surtout pas de casquette, et sois toi-même et libère-toi dans le boulot. Quoi. Mm-hmm.
Ouais. C'est quand même, ça me fait penser par exemple à 1984 d'Orwell, quoi. C'est-à-dire cette capacité que peut avoir le corps social, des fois de façon très, 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 très prégnante, très violente, de casser les identités individuelles pour créer le moule du conformisme et le moule d'un comportement qui est socialement rentable, en fait. Voilà. Faire de l'individu, en fait, une marchandise qu'on peut utiliser, un outil. Voilà. Un outil au service de... Donc oui. Et le fait est, c'est qu'on est quand même assez facilement façonnable par la pression des normes sociales. Et le poids du « nous », effectivement, est des fois absolument considérable. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rester soi au sein, effectivement, d'un groupe qui impose un comportement, un mode de pensée, une façon de ressentir les choses? Du coup, ça devient une véritable lutte d'être soi. Et dans cette lutte, le problème, je crois, c'est... alors, on parlait de Gainsbourg, hein, qui le disait. Enfin, des fois, il y a un immense sentiment de solitude. C'est-à-dire, tenter d'être soi se pense comme une lutte pour la reconnaissance, mais de ma singularité, du fait, justement, que je ne suis pas l'autre. Et là, c'est accepter aussi le fait d'être seul, quoi. Voilà, et ça c'est pas évident parce que ça déstabilise, ça met mal à l'aise, ça crée en soi un sentiment de vide, de manque, et du coup des fois aussi de légitimité. Est-ce que j'ai le droit de m'opposer à ce qu'on attend de moi, à ce que l'on veut de moi, à ce qui m'est demandé pour m'intégrer dans la société, voire simplement dans le cas du serveur, ben il faut bien aussi que j'assure ma survie ou mes besoins du quotidien. Donc, qu'est-ce que je suis prêt à lâcher et à quoi est-ce que j'accepte de ne pas renoncer ? Et puis, des fois, ben, on renonce à beaucoup, beaucoup de choses parce que ça donne aussi le sentiment d'être comme tout le monde, quoi. Et ça, effectivement, c'est rassurant. Nous sommes quand même des animaux grégaires, hein. Peut-on vivre sans les autres ? Ben, peut-être pas. Donc, du coup, être comme les autres, ben, voilà. Et c'est vrai que c'est la base de ce que quelqu'un comme Tocqueville nommait le despotisme doux, en fait, hein. Il y a un despotisme doux, du coup, qui s'impose en contrôlant nos identités. Alors, du coup, c'est dans ce sens-là que j'entendrai la question. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je me mets dans le moule, ben, il y a bien quelque chose de mon identité qui m'échappe, alors même que je me présente comme étant moi, avec ma carte d'identité, etc. Mais elle appartient à qui, cette identité ? Elle appartient à l'entreprise ? suis voilà le bon élément de d'Apple, je suis le bon fonctionnaire de voilà de la fonction publique, je suis le bon fils ou la bonne fille de la famille, je suis un bon le bon époux, enfin du coup à qui appartient cette identité là quoi.
Oui, mais si je me réfère à rien, est-ce que j'ai une identité? C'est un petit peu, je voulais intervenir plusieurs fois, je sais plus trop ce que je voulais dire, mais ça. Est-ce que c'est si tranché? Est-ce qu'on est quelqu'un? Est-ce qu'on a une identité? Bon, ça donne à peu près le même sens au monde de l'identité, je pense. Est-ce qu'on a une identité si on est seul? Par exemple, quand vous parliez tout à l'heure des gens qui éprouvent le besoin de changer de genre, de sexe, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? Ils cherchent une reconnaissance de leur véritable identité. Eux-mêmes, ils savent qui ils sont. Leur identité n'existe, même leur véritable identité, tout au fond, n'existe que quand les autres vont la reconnaître. Ils vont se faire reconnaître tels qu'ils pensent qu'ils sont vraiment ou tels qu'ils ressentent qu'ils sont vraiment. Mais tant qu'ils ne sont pas reconnus par les autres, ils savent toujours qui ils sont, mais ils n'ont pas d'identité. L'identité, elle est donnée par le regard des autres. Et quand on parlait tout à l'heure du clown, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on confond l'identité et le personnage. Je reviens un petit peu à ce que disait madame. On peut avoir des rôles sociaux, familiaux, de l'empathie pour certaines choses, moins pour d'autres. Jouer des rôles sans que ce soit factice, sans que ce soit faux, sans que ce soit singé, être quand même véritablement soi-même authentique avec notre propre identité, mais jouer des rôles différents. Et l'histoire du clown, moi, pour moi, c'est un personnage. Et le personnage, c'est, en latin, je suis désolée, le persona, ça veut dire le masque. Donc, on a tous plusieurs masques. On a quand même notre identité. Et quelquefois, je pense qu'on sait qui on est, a priori, quand on est relativement équilibré. Bon, après, c'est un autre souci, ça, la psychanalyse, etc. Mais, et à partir de... sur certaines formes de notre identité, donc de nos rôles, de nos masques, de nos personnages, qui sont quand même nous, et qu'il faut effectivement endosser dans la société, mais on est grégaire, on a besoin qu'on soit reconnu comme le clown, le méchant, le gentil, etc. Et ça fait partie de notre identité. Il y a des gens qui sont reconnus que comme le méchant, qui se veulent être méchants, qui sont fondamentalement méchants, ou qui sont méchants sans s'en rendre compte et qui sont reconnus comme tels. Et c'est aussi pour ça qu'après, ils vont être punis par les lois, etc. Enfin, je veux dire, ça, l'identité, pour moi, elle tient par le fait qu'on est, sans arrêt confronté au regard des autres. Et l'enfer, c'est les autres. Pour moi, c'est à double tranchant. L'enfer, c'est, les autres, c'est aussi ce qui nous fait exister. Donc c'est ce qui nous fait, à nous-mêmes, nous reconnaître comme étant quelqu'un avec telle qualité, tel travers, tel truc, tel machin. Mais sinon, c'est quoi le lien, la référence? On est vide. Se répéter moi-même, je suis comme ci, je suis comme ci, je suis comme ça, c'est par rapport à un tissu social.
Oui. Suis-je sans le regard d'autrui? Pas sûr. Ah, oui, ça répond.
Alors, Sartre disait l'enfer, c'est les autres. Albert Jacquard disait le je n'existe que grâce au tu. Donc, je voudrais revenir sur ceux qui n'ont pas d'identité, voire pas d'existence. J'avais été très marquée il y a quelque temps de voir une mendiante à la sortie d'une boulangerie célèbre de l'agglomération, et beaucoup de gens, en sortant de la boulangerie, lui donnaient quelque chose, mais pas de regard. C'était effrayant. Personne n'échangeait un regard avec cette femme. Que devient l'identité quand les gens ne vous voient même pas? Et le deuxième cas que je voudrais évoquer, c'est celui de tous ces migrants morts en Méditerranée. Beaucoup ne sont pas identifiés. Ils ont des histoires personnelles, ils ont des familles, ils ont des proches qui ne pourront jamais faire leur deuil parce qu'ils ne sauront même pas que l'être qui leur était cher est mort en Méditerranée.
Oui, tout à fait.
Moi, je vais revenir toujours sur mon côté de nature, l'identité. Non, là, il y a une tendance actuelle qui affole tout le monde, hein, c'est l'IA, je suis en train de penser, l'IA, avec Sam Altman qui a mis en route ChatGPT, hein, qui a interdit en Italie, parce que Elon Musk a dit de faire un moratoire de 6 mois, c'est trop tard, ça nous rattrape. Dans ce futur-là, on peut se poser la question autrefois, mais qu'est-ce que sera notre identité? Après, je pensais tout à l'heure, en parlant de l'humain, on parle entre nous, mais une capacité à pouvoir avoir sa propre identité, c'est par exemple un animal domestique.
Parce que là, on trompe personne.
Oui. Alors, juste peut-être expliquer ce que c'est le IA.
IA, ça veut dire intelligence artificielle. C'est une capacité, une entité informatique de pouvoir se rapprocher de la conscience et donner des réponses. Alors, c'est surtout pas ça, c'est ce que les gens croient en tout cas. L'IA, c'est une IA, ça veut dire intelligence artificielle. Et c'est la capacité de pouvoir collecter toutes les données qui sont sur cette planète pour en faire un résultat qui peut aider l'humain ou, à contrario, pour aider la guerre.
Voilà. Mais en tout cas, c'est l'usage de l'outil informatique.
Oui, oui.
Voilà. Oui. Vous vouliez intervenir ?
Moi ?
Oui. Non ? Il y a quelqu'un d'autre avant ? Oh, je suis désolée, j'avais pas suivi. D'accord. Oui. D'accord. Donc.
Ah, là, on va être plusieurs, là, je pense.
Ah, voilà. Oui. Si, si.
Oui, alors moi, je voulais revenir un petit peu sur ce que disait Marie-France à propos des microns.
Des microns, oui.
J'ai appris qu'effectivement, les Philippins qui venaient à Dubaï. On leur supprimait carrément leur carte d'identité.
Ils ne
pouvaient plus partir. Et ça, c'est vrai. Alors, ça, c'était une petite parenthèse pour rebondir sur ce que tu as dit, enfin, pour continuer sur ce que tu as dit. Et moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est l'histoire d'identité et d'enfermement. Je pense que nous ne sommes pas obligatoirement conscients de nos changements d'identité quand nous changeons d'identité par rapport au groupe. Et que c'est là le danger, parce qu'on arrive au formatage.
Voilà.
Et à partir du moment où il y a formatage, il y a enfermement. Et à partir du moment où il y a enfermement, il n'y a plus de liberté.
Voilà, il y a perte de liberté. Hein. C'est ce qu'on disait sur l'expérience, là, hein, où on est capable de dire ce qui peut aller contre sa propre pensée, et l'expérience allait beaucoup plus loin, c'est qu'à la fin, on est convaincu de la pensée fausse, en fait, qui nous a été inculpée. Ouais, le formatage total. Ouais.
Oui. Je voudrais évoquer un aspect qui, semble-t-il, n'est pas encore très ressorti. C'est dans la rencontre avec l'autre, on fait quand même parfois cette expérience de ne pas se reconnaître dans ce que l'autre nous envoie, dit de nous.
Oui.
Et avec beaucoup de difficultés pour, d'une part, comprendre ce que lui nous envoie, et d'autre part, pour lui faire comprendre qu'on ne se reconnaît pas, et autrement dit que notre identité n'est pas, dans ce qu'il nous propose comme image de nous.
Ouais. Mais du coup, c'est intéressant, parce qu'il y a une variabilité de l'identité. On voit bien qu'elle n'est pas statique. Hein. Oui.
Deux choses. D'abord sur l'intelligence artificielle qui existe depuis quand même très très longtemps. C'était d'abord la dichotomie. Mais le système d'intelligence artificielle, ce n'est pas une méthode de pensée artificielle, c'est une méthode d'observation et d'apprendre à la machine d'apprendre par elle-même. Elle fait ce qu'elle veut et après, elle propose ce qu'elle veut. On s'aperçoit que ce qu'elle propose, ce n'est pas con. Et c'est très très bien ciblé. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement dangereux parce qu'on n'en maîtrise plus. Que ce n'est pas un logiciel informatique qui a le résultat de ce qu'on lui a programmé. C'est un système à qui on apprend à apprendre, à observer et à proposer. C'est comme la mécanique quantique. Et puis après, statistiquement, il propose des choses et merde, ça tombe toujours bien. Là, ça, c'était juste par rapport à l'intelligence artificielle pour faire attention qu'en fait, c'est même pas une technologie, c'est une manière de répéter comment un bébé découvre la vie. Ça, excusez-moi, c'était juste une aparté sur l'intelligence artificielle. Je vais juste revenir sur Albert Camus qui répondait, je crois, un peu à Sartre en disant « Je me rebelle, donc j'existe
».
Et donc, par cette notion, parce qu'on a beaucoup parlé de l'enfer chez les autres, et donc, une des réponses de Camus, alors je ne sais plus si c'est dans L'homme révolté, mais en tout cas, c'est « Je me rebelle, donc j'existe ».
Donc, je suis,
Donc, mon identité, c'est la rébellion en permanence contre ce qu'on croit. Enfin, là, je ne vais pas faire une interprétation de Camus, pardon.
Mais contre toutes les formes d'enfermement, en fait, hein, chez Camus, très clairement. Hein.
Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'il faut relire Camus. Ouais.
Oui.
Allô. Oui. Oui, je rebondis sur Marie-France.
Enfin, je rebondis sur ce qu'elle a dit. Non, Marie-Josée, je t'en prie. Chacun garde son identité.
Voilà.
Je lui ai dit qu'elle avait le même prénom que ma mère. Alors, du coup, elle se permet des petites choses. Ouais, c'est le lieu. Je trouve que le lieu a énormément d'impact sur nous, sur notre identité. Et tu parlais de la boulangerie, de l'agglomération. Et de cette femme qui faisait la manche, c'est ça ? Ouais. Et c'est vrai que bah, des personnes qui font la manche d'une ville à l'autre, je trouve qu'elles sont très différentes. Moi, c'est vrai que des fois, quand je descends à Marseille, eh ben, je trouve que je vois des personnes qui ont l'air sans-abri et puis qui sont souriants. Et quand même, et puis du coup, on peut échanger plus facilement. C'est assez étonnant. Et bon, là, c'est assez extrême comme exemple. Ouais, bah ouais, ça donne le sourire, c'est sûr.
Et la pauvreté est moins dure au soleil. Aznavour.
Serait moins pénible au soleil, je crois qu'il y a une chanson d'Aznavour.
C'est pas exact. L'idée est là, mais ouais.
Coller
la misère et la misère est moins dure au soleil. Moins pénible au soleil. La misère
c'est mon identité qui en prend un coup là. Quoi.
Ouais.
Et on m'a dit de parler comme ça. Ouais, du coup, bah, le lieu ouais, qui nous impacte, qui nous donne aussi de l'énergie des fois, qui nous donne envie de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est vrai qu'à Paris, j'ai pas envie de faire la même chose qu'à Orléans. Quand je suis dans la nature, j'ai pas envie de faire les mêmes choses que quand je suis dans un immeuble ou au lycée Jean Zay. Enfin, voilà.
Ouais.
Petit partage des familles.
Là aussi, hein, cette variabilité du soi, voilà, ce changement. Voilà, dans l'être que l'on est, selon les lieux. On y revient. Oui, monsieur, ensuite.
Excusez-moi, je voudrais m'insurger contre la pauvreté au soleil, c'est mieux. Quand vous regardez certains migrants, ouais. Vous leur posez la question qu'ils viennent de super beaux pays, ils vous disent quand on est pauvre, on n'est pas dans un beau pays. Et ça, c'est tous les migrants qui sont là ici, qui s'intègrent très bien. C'est un élément récurrent de leur réponse. On dit, waouh, vous venez de Moldavie, c'est vachement beau la Moldavie. Quand on est pauvre, c'est pas beau la Moldavie.
Ouais.
Donc, faut faire attention. La pauvreté, enfin, la chanson d'Aznavour. Là,
non, mais là, c'était juste à Marseille.
Ouais, d'accord. Enfin, non, mais bon, faut dire ça me.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Souvent dit. Vous parlez d'où ? Quand vous parlez d'où ?
Hein, ouais. C'est très important ouais.
De ce truc-là, mais je pense qu'il faut faire un petit peu attention à cette image un peu facile.
Il y avait monsieur.
Moi, du coup, je voulais reposer une question par rapport à l'identité. Je dirais que l'identité personnelle, c'est un peu le sentiment d'être dans une continuité de soi-même. Du coup, bon, il y a tout un tas de questions un peu classiques avec le fameux bateau dont on change toutes les pièces. Est-ce que c'est encore le même bateau ?
Est-ce que c'est toujours le même bateau ?
Du coup, la question aussi, qui me semble intéressante, auquel je n'ai pas vraiment de réponse, c'est est-ce qu'on change ? Est-ce qu'on change vraiment profondément ou est-ce qu'on change jamais ? Enfin, je sais que c'est un peu un débat. Est-ce qu'il y a quelque chose en soi fondamental qui ne change pas ? Puisqu'on se rend compte qu'au fur et à mesure de la vie, il y a un certain nombre d'événements qui peuvent nous faire évoluer, changer, je sais pas, que ce soit des traumatismes par exemple, qui peuvent faire une vraie rupture dans l'orientation de la vie, mais est-ce qu'il y a quelque chose au fond qui reste ou pas ? Et malgré tout, on a toujours ce sentiment qu'on est la même personne, et encore. Après, est-ce que c'est la mémoire ? Est-ce que c'est le fait, dans le regard de l'autre, qu'on est reconnu comme étant toujours le père, la mère, l'enfant, ou des choses comme ça ?
Oui. Question.
Une question.
Question. Ouais. Il y avait monsieur.
Monsieur.
Bon, ça va être très rapide. En fait, Johnny, dans une chanson, l'album, ça s'appelle « Ça ne change pas un homme ». Je pense qu'il y a des gens qui connaissent. Un album de 92. Et dans une des chansons, il disait « J'avais peur ». Enfin, c'est pour étayer ce que disait monsieur en rose. Je me permets.
C'est limite.
Monsieur Marcel, en fait, dans sa chanson, il disait « J'avais peur que les autres me voient comme eux, je vois les autres. J'avais si peur de moi », il disait. Et je trouve que c'est très dur à expliquer, en fait.
Oui.
Le monsieur a essayé d'expliquer. Il a essayé. C'est très étrange, en fait. Le regard de l'autre, est-ce que c'est l'autre qui va mal, est-ce que c'est nous? On peut se poser plein de questions sur l'existence du soi, à travers le regard de l'autre.
Mm-hmm.
Est-ce que ce regard, est-ce qu'il est... Est-ce que son...
Ça me fait penser à quelque chose que je ressens comme essentiel. C'est que j'ai mon propre regard, mais je me dois de respecter le regard de l'autre.
Mmh. Ah, j'ai mon propre regard sur moi.
Sur moi.
Et sur autrui. Oui. Mmh.
Mais je n'ai pas à imposer ce regard. L'autre a son propre regard et nous sommes faits de ce dialogue-là.
Mmh. Oui.
Je veux juste poser une question. Je me demande si est-ce que ce que nous voyons chez l'autre n'est pas que le reflet de nous-mêmes.
Mm-hmm. Projection.
Voilà, ouais. Est-ce que je me dis du coup ça change complètement la donne. Est-ce que l'autre ne m'amène pas qui je suis, ne m'amène pas à aller regarder qui je suis vraiment. C'est vraiment si je regarde par ma fenêtre de ma réalité, la réalité toute subjective. Qu'est-ce que l'autre vient m'apprendre sur moi-même, dans mes réactions et que je ne veux pas voir parfois, les choses qui sont faciles à voir et les choses que je ne voudrais pas voir. Et que l'autre.
L'autre un peu comme miroir de moi-même, du coup.
Comme miroir de moi-même.
Ouais.
Exactement.
C'est ça. Ouais.
Oui, en fait, j'avais une question, parce que ça fait une heure qu'on parle et je suis pas sûr, en fait, de... Moi, ce que j'imagine pour l'identité, moi, c'est un peu ma vitrine, en fait. C'est ce que voient les autres, c'est mon rôle. Alors, effectivement, je pense qu'on peut avoir plusieurs rôles. Quand tu es au travail, je vais pas avoir le même rôle. Quand on a des réunions, on sait très bien que, voilà, on va avoir une attitude qui n'est pas la nôtre. Mais ça reste une identité par rapport à la société, par rapport à la famille, les amis, etc. Et ce que moi, je ressens vraiment au fond de moi-même... Pour moi, ça, ce n'est pas mon identité, c'est quelque chose que personne ne connaît, qui peut fluctuer. Et voilà, je voulais savoir, est-ce que j'ai complètement faux en faisant ce distinguo entre l'identité qui est visible et ce que je ressens moi-même et que personne d'autre ne connaît.
Ouais.
Je me demande si l'identité, c'est pas... la fin d'une quête qui nous enferme dans quelque chose.
Ouais.
Que finalement, ne pas l'avoir, c'est-à-dire être tout le temps en quête d'identité, à se renouveler tout le temps, c'est ça qui nous libère finalement de cette identité qui nous enferme. Voilà.
Mmh. Ok.
Je reviens encore à l'immigration. Et notamment une immigration particulière qui était les pieds noirs. Et un certain nombre de pieds noirs, alors j'en suis pas, disaient je suis pas d'où je viens, je suis ce que j'ai fait et ce que j'ai construit. Et donc mon identité, elle est à l'endroit des choses que j'ai faites, notamment les pieds noirs qui étaient installés en Corse, qui ont développé la culture, affirmé leur identité en Corse par rapport à tout ce qu'ils y avaient construit. Et pas ce qu'ils étaient, donc des expatriés en Algérie et rapatriés ensuite. Et donc il y a cette notion-là, parce que quelqu'un dit il y a ce que je pense et de mes propres identités, ce qui est une chose, mais si ça ne paraît pas vis-à-vis des autres, il ne peut pas savoir quelles sont ses identités. Et donc cette revendication de dire mes identités, c'est ce que je fais, ce que vous voyez et ce que je.
de factuel, en tout cas de factuel aussi de ce que je dis, etc. Ça, ça définit l'identité. Quand c'est interne, c'est sa propre identité, mais ça ne peut pas être l'identité vue des autres, puisque si on la garde que pour soi-même et qu'on est dans son propre regard. Donc notamment, c'est pour ça que je rebondissais sur ce que j'avais entendu de... Enfin, d'immigrés, c'est pas les immigrés, mais oh, il y a un pied noir, il va me tuer. Mais... aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, je m'excuse pour la bombe qu'il va y avoir.
En fait, je ne suis pas corse, mais j'habitais la Corse à cette époque. D'accord ?
Ouais.
Et en fait, l'histoire du pied noir, comme vous dites, ça n'était pas du pied noir au sens où on l'entend aujourd'hui. C'était des colons à qui on avait donné les terres, et particulièrement toute la terre, les Adriates, c'est-à-dire les terres les plus arides. On leur a donné ces terres-là pour qu'ils les exploitent avec des moyens. L'État français. Et moi, qui habitais là, je peux vous dire qu'il y avait des Corses qui avaient aussi besoin de moyens pour... bon, il y en avait qui avaient des plantations d'artichauts, par exemple, du côté de Saint-Florent. Moi, j'habitais Porto-Vecchio. Hein? Et je peux vous dire qu'ils n'ont jamais eu de mise en eau, enfin, d'arrivée d'eau. Mais par contre, et c'est comme ça que ça a commencé, toutes les histoires de Corses qui se poursuivent aujourd'hui. Moi, j'y habitais à cette époque-là. Et je peux vous dire que l'État ne s'est pas très bien comporté avec les Corses. Et pourquoi ? Ben parce qu'en fait, ils ont donné des terres à exploiter.
Et parce que ces gens-là, ces gens-là,
ah bon ? Bah écoutez, en fait, c'était quand même des colons. Hein. Oui, d'accord. Et alors, pourquoi on donne ces terres-là à ces gens-là qui ont des moyens ? C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est l'identité, hein ?
Oui.
Tant que vous l'entendez.
Oui. Mais du coup, voilà, oui.
Ça va annuler le débat parce que c'est très pragmatique, encore une fois. Moi, je ne comprends pas quand vous dites qu'est-ce que ça veut dire en quête d'identité.
Quête d'identité, c'est-à-dire se renouveler.
Pour moi, la quête d'identité, c'est-à-dire se renouveler tout le temps par rapport à l'interaction, comme monsieur avait dit, qu'on est tout le temps en interaction entre ceux qui nous regardent et ceux que nous ressentons, enfin, ceux que nous. La manière dont nous nous voyons. Et au fur et à mesure, on essaie de corriger. C'est un peu comme une voiture, une Formule 1 pour être plus simple. On règle tout le temps. On fait des réglages pour tel circuit, on fait des réglages pour l'autre circuit. Et un être humain, c'est un peu ça. Toujours être en quête et régler par rapport à ce que nous donnons et ce que nous ressentons. Par exemple, on peut se comporter d'une certaine manière quand on est en France. Et quand on part dans un autre pays avec d'autres mœurs, ben on essaie d'avoir, je ne sais pas changer complètement son identité, mais essayer de s'adapter à la société. Quoi. Voilà. C'est toujours... Voilà. Et si finalement on décide d'y habiter, évidemment, on ne va pas continuer à se comporter comme on se comportait en France. On va essayer de s'adapter au pays.
Là, je vais rebondir, parce que l'identité individuelle, depuis le début, on parle individuel, mais... Au fur et à mesure qu'on décède, ça disparaît complètement. Les traces ne sont laissées que par le souvenir de ceux qui sont encore présents. Après, il reste l'identité de peuple. Hein. Je pense l'identité qui sont ancrées. Les Égyptiens, c'est en gros, si on demande, c'est les pyramides. Voilà. Les Incas, c'est les temples, enfin, des trucs comme ça. Et là, l'identité d'un peuple, effectivement, est fixée par des entités individuelles d'éducation. Et donc, l'identité, c'était pour dire, est éphémère par individu. Quoi. Donc, ce soir, on parle d'identité d'enfermement pour l'individu, mais reste une trace quand même dans l'humanité, c'est une identité collective.
Mais c'est vrai que l'identité collective, elle peut être par exemple nationale. C'est-à-dire, et donc rejoindre mon identité personnelle, au sens où je suis française, par exemple, ou de culture française. Donc là aussi, on peut avoir ce même sentiment de... Voilà, d'enfermement au sein d'une identité collective. Oui ? Il y avait quelqu'un d'autre qui a... Non ? Oui, il me semblait. Oui.
Monsieur en rouge, à côté du monsieur avec le... Voilà. Moi, je voulais dire que je comprends cette quête d'identité perpétuelle. Mais je pense que c'est plutôt une quête de personnalité plutôt que d'identité. Voilà. C'est uniquement ça que je voulais dire.
Ouais, donc conclure, il faut conclure. Alors, conclure, je pense que on a dit beaucoup de choses. Moi, il y a toujours cette phrase de Pascal qui, durant tous nos entretiens, n'a pas cessé de m'habiter, qui est que le moi n'existe pas. Voilà, voilà, fameuse sentence de Pascal. Le moi n'existe pas. Pourquoi ? Parce que justement, je ne suis que les masques sociaux que j'offre à la société et que la société me reconnaît. Et donc, qui suis-je ? Ben, je ne suis que cette suite ininterrompue, voilà, de personnalité pour le coup, hein, que je présente au sein des différents groupes que je peux habiter. Mais d'une certaine manière, j'ai envie de dire, c'est quand même une conclusion qui me convient pas. Voilà. Alors du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre ? Et là, on retrouve Sartre qu'on a quand même beaucoup cité. Mais chez Sartre, ce qu'on n'a pas cité, c'est son concept de mauvaise foi. L'enfer, c'est les autres, parce que les autres, effectivement, me chosifient, me réifient. Ils me font être ce que je suis. Soyons simples. Je suis animatrice de Philomania que parce que vous me considérez comme animatrice de Philomania. Voilà. Et que dit Sartre ? Sartre dit, mais la mauvaise foi, ça serait de croire que je suis animatrice de Philomania. Alors c'est ça qui, des fois, est compliqué à comprendre avec Sartre. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, mais en fait, cette identité-là qui est donnée par la reconnaissance d'autrui, effectivement, elle ne m'enferme que si j'y crois. C'est-à-dire si, effectivement, j'y pose mon être. Mais je ne suis pas animatrice de Philomania. Ça, pourquoi ? Parce que je peux être tellement d'autres choses. Ce qui veut dire en fait que effectivement, on retrouve le Pascal. Le moi n'existe pas au sens où je ne suis pas figée dans une identité donnée. Et que ce que je suis, alors c'était peut-être ça l'identité humaine dont vous parliez, cette identité humaine, elle m'ouvre au monde et elle m'ouvre au monde du coup des identités. Et du coup, que dit Sartre ? Sartre dit, mais l'identité d'un individu, c'est ce qu'un individu a à prendre en charge d'être. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'identité que je me choisis d'être. Et la liberté fondamentale, elle est là. C'est-à-dire, justement, qui suis-je ? Ben, celui que je veux être, que je désire être en termes de valeur, ce que je me choisis d'être en adéquation peut-être avec moi, mais que je vais affirmer être. Parce que être soi, c'est peut-être donné à la naissance, mais c'est pas pour autant que ça s'impose aux autres. C'est-à-dire, du coup, ce soi que je suis, il va falloir que j'aille le chercher et il va falloir que j'aie le courage de le poser, c'est-à-dire de sortir de tous les enfermements dans lesquels on veut m'inscrire. Voilà. Et c'est en ce sens où je rejoins totalement Camus, c'est-à-dire, effectivement, si Descartes dit « je pense, donc je suis », sur l'identité, on pourrait peut-être dire « je me rebelle constamment, donc je suis », c'est-à-dire « je lutte contre tout ce qui veut m'enfermer, contre tout ce qui veut me catégoriser, contre tout ce qui voudrait, effectivement, me positionner, et j'ai envie de dire, effectivement, me déterminer dans un ordre social donné. » Voilà. Et du coup, je me dis, mais ça, comment c'est possible ? Et là, c'est pas courant chez moi, mais je reviens à la littérature. C'est-à-dire, il me semble qu'il y a un roman extraordinaire qui est « À la recherche du temps perdu ». Et qu'est-ce que « La recherche du temps perdu » ? C'est un narrateur qui relate sa vie et dans laquelle on voit tous ces changements de personnalité, tous ces masques sociaux, etc. Et en fait, je me dis, mais la recherche du temps perdu, qu'est-ce que c'est si ce n'est cette quête d'identité? Voilà. Qui suis-je? Voilà. Et du coup, le moi, il est où? Ben, il me semble que quand on lit à la recherche du temps perdu, on suit l'histoire du narrateur, ces différentes facettes que nous sommes tous, mais celui qu'on oublie toujours, ben, c'est celui qui est dans son lit, qu'on ne voit jamais, et qui passe son temps à écrire la recherche du temps perdu. C'est Proust. On l'oublie tout le temps, Proust. Et je me dis, mais du coup, l'identité, là, elle est où? Elle est dans ce regard que l'écrivain est capable de poser sur lui-même, sur ses propres œuvres de fiction, peu importe, parce que je suis celui que je parais, mais je suis aussi celui que je crois être, celui que je me propose d'être à moi-même, sur ses propres fictions, et qui est capable de s'analyser soi-même. Qui est capable de se donner à soi-même dans une œuvre. Et donc, son identité, elle est dans l'œuvre qu'il se fait de lui-même. Voilà, il se fait œuvre. L'identité, c'est peut-être effectivement que le résultat final de ce que je passe, en fait, ma vie à faire, mais qui m'est donné par ce regard introspectif que j'ose poser sur moi-même, sur les qualités, sur les défauts, qui fait que je ne suis pas dupe de moi-même. Voilà. Et c'est cette capacité à pouvoir ne pas être dupe de soi dans ce qu'on raconte de soi qui, d'après moi, est source de libération. Voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas de liberté d'être soi. On se libère de toutes les déterminations qui nous permettent d'être dans la société dans laquelle on est. Parce qu'on ne pourrait pas être si on n'était pas à certains moments déterminés. Il faut bien que je sois animatrice de Philomania pour être. Mais en même temps, il faut bien que je sois aussi capable de me libérer de cette détermination pour pouvoir la penser et me ressaisir tout simplement en tant que moi, c'est-à-dire dans ce regard qui fait que je suis tout simplement capable de m'analyser moi-même, de me juger moi-même, de me sortir des déterminations qui me sont imposées à moi-même, voire que je m'impose à moi-même. Je suis moi-même capable de me choséifier. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est toujours la chute à la recherche du temps perdu. En fait, c'est un narrateur qui est amoureux d'une femme, follement amoureux d'une femme, et donc, on raconte son histoire, il passe par la jalousie, la passion, enfin bref, et ça se termine par, donc, 2000 pages, tout ça pour une femme qui n'était pas mon genre. Point. Voilà. Et je trouve que là, on sent bien comment on est capable de sortir de tous les enfermements identitaires qu'on nous donne ou qu'on se donne, avec ce regard introspectif sur soi et ce courage, je pense, de se donner à soi-même l'être qu'on veut être.